Kiosque Magazine.
Bonjour et bienvenue à votre kiosque magazine du 10 décembre 2014. Vous êtes en compagnie de Dominique Meillet et de Janine Petitbois. Bonjour Janine.
Allô Dominique, ça va bien?
Ben oui, très bien, avec cette belle neige qui tombe.
Oui, c'est agréable.
C'est Noël c'est déjà aujourd'hui. Et on va recevoir des cadeaux.
On a bien hâte. Hein.
Alors, moi je vais vous parler de différents sujets, notamment vapoter. Est-ce OK? Oh. Décorer en pensant à la planète, décorer la maison pour Noël, et gâteau aux fruits et cravate LED, oh, et 10 ennemis de la magie de Noël. Donc, parce qu'il faut parler de Noël, là, ça y est, on est dedans.
Oui, hein? On est dedans, surtout ce matin, bon, du coup, on est content. Eh bien, moi, je vais faire une petite, un cartade. On va parler de Pascal Bussière. Aussi, un petit peu de motivation ce matin. On dansera pas sous la neige, mais sous la pluie. Et on va récupérer une belle journée en quelques étapes faciles. Aussi, une petite idée de nos looks en fête, des petites idées simples à vous suggérer.
Voilà. Et à tout de suite. Vapoter, est-ce OK? Elle est nouvelle et déjà elle est partout. La cigarette électronique permet à tous de vapoter en toute liberté. Mais c'est bon ou pas? Le point en 8 questions. C'est par Amélie Cournoyer dans le coup de pouce de décembre 2014. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Mise au point par un pharmacien chinois, la première version de la cigarette électronique, aussi appelée e-cigarette, a été commercialisée en 2005, permettant de reproduire le geste de fumer. Toutes les e-cigarettes sont constituées d'un inhalateur, le bec de la cigarette, dans lequel s'emboîte un cylindre en acier inoxydable ou en plastique. Celui-ci contient une cartouche remplie d'un liquide, un atomiseur qui chauffe le liquide de la cartouche jusqu'à son évaporation, une pile et un voyant d'aile. C'est compliqué, hein, dis donc, je pensais que c'était plus simple que ça.
On fait beaucoup de fumée. Hein?
Ouais. Ce liquide se compose à plus de 90% de propylène glycol et de glycérol, des additifs généralement reconnus comme étant sécuritaires, auxquels on ajoute souvent de l'alcool, de l'acide lactique et des arômes comme le chocolat, l'amande verte, l'érable, le tabac, etc. Il se vend plus de 7700 saveurs différentes dans le monde, un nombre qui ne cesse d'augmenter. Ceux qui ajoutent de la nicotine en choisissent la concentration, la plus forte teneur, équivalent presque à celle d'une cigarette conventionnelle, soit 20 mg par millilitre. Est-ce un bon outil pour arrêter de fumer? Il n'existe pas encore de preuve scientifique que la cigarette électronique est aussi efficace que les produits de sevrage déjà sur le marché. Par conséquent, il est toujours interdit au Canada de la vendre comme une aide à l'abandon du tabac. Malgré cela, l'argument est souvent invoqué par les commerçants, mais aussi par plusieurs professionnels de la santé. En effet, même s'ils ne peuvent pas la prescrire, certains médecins québécois n'hésitent pas à la recommander à leurs patients qui désirent écraser pour de bon, la considérant comme un moindre mal. Quels sont ses effets sur la santé ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme tue près de 6 millions de personnes chaque année. La combustion du tabac, c'est lui qui nuit à la santé, pas la nicotine, qui elle crée toutefois la dépendance, produit en effet plus de 4000 produits chimiques responsables du développement de maladies cardiovasculaires, respiratoires et du cancer. Il est bien documenté que les composantes chimiques de la cigarette électronique contiennent beaucoup moins d'impuretés et de produits nocifs que la cigarette traditionnelle. Jugé plutôt inoffensif, les ingrédients principaux du liquide entrent déjà dans la conception de médicaments, d'aliments et de cosmétiques. Les études publiées à ce jour ne notent pas d'effets indésirables importants à court terme. Ceux-ci seraient mineurs, comme une toux sèche, une irritation de la gorge ou de la bouche. En revanche, les effets à long terme demeurent inconnus. La vapeur secondaire est-elle nocive?
Je dirais oui.
Je ne sais pas. Plusieurs études ont déjà été réalisées afin de déterminer la composition de la vapeur émise par les différentes marques de cigarettes électroniques et d'en évaluer les effets sur la santé des vapoteurs, mais aussi celles de leur entourage. D'autres résultats sont attendus prochainement. Publiée en automne 2013, une étude menée par le magazine 60 millions de consommateurs, qui équivaut à, enfin, c'est le magazine français de Protégez-vous, a révélé que les vapeurs émises par certaines marques de cigarettes électroniques peuvent contenir des substances potentiellement cancérigènes, ainsi que des traces de métaux lourds. L'équipe du magazine se dit toutefois convaincue que la vapeur secondaire de la cigarette électronique est moins dangereuse que la fumée secondaire du tabac. Y a-t-il des normes qui régissent sa fabrication ? Il n'existe pour le moment aucune norme et pratiquement aucun contrôle de la qualité, autant pour le dispositif de vaporisation que pour le contenu des cartouches. Des études ont décelé des traces de nicotine dans les e-cigarettes qui déclaraient en être exemptes. Elles ont aussi mesuré jusqu'à 70% d'écart entre la teneur en nicotine de certaines cartouches et celle indiquée sur leur étiquette, et noter une très grande variation dans la composition des liquides selon les fabricants. Quelles sont les lois qui l'encadrent ? Au Canada, on peut acheter des e-cigarettes sans nicotine jetables depuis 2009 dans les dépanneurs, les tabagies, certains magasins à 1$ et en ligne. Comme elles relèvent de la loi sur la sécurité des produits de consommation, les mineurs peuvent s'en procurer sans problème. Santé Canada rappelle pour sa part que les cigarettes électroniques et les cartouches qui contiennent de la nicotine sont soumises à la loi sur les aliments et les drogues. Cela signifie que ces produits doivent être homologués par le ministère avant d'être importés, annoncés ou vendus. Comme aucun produit n'a reçu d'autorisation de mise en marché, leur vente, même en ligne, est toujours interdite au Canada. Malgré cela, on peut aisément en acheter en ligne et dans les boutiques spécialisées, qui se multiplient à une vitesse époustouflante. Quelles mesures ont été prises par Santé Canada, comme la saisie des produits ? Quelques mesures, pardon, ont été prises par Santé Canada, comme la saisie de produits et l'envoi d'avertissements écrits aux marchands pour qu'ils cessent de vendre des cartouches et des e-cigarettes contenant de la nicotine. Les commerçants poursuivent néanmoins leurs activités sous prétexte que la teneur en nicotine de leurs produits est insuffisante pour qu'ils soient visés par la loi sur les aliments et les drogues, créant ainsi une zone grise pour faire des affaires en or. Peut-on l'utiliser dans les endroits publics ? L'usage de la cigarette électronique ne fait l'objet d'aucune réglementation pour le moment. On peut donc, en théorie, la fumer dans tous les endroits publics, à part les avions. Et enfin, combien ça coûte ? Bonne pour plus ou moins 400 bouffées, l'équivalent d'une vingtaine de cigarettes conventionnelles. Les e-cigarettes sans nicotine coûtent une dizaine de dollars chacune. Le kit de départ d'un modèle réutilisable se vend entre 50 et 100 dollars et il faut compter une trentaine de dollars supplémentaires par mois pour le liquide.
Eh bien, imagine. Eh bien, moi, je vous parle de Pascal Bussière, mon Dieu, excusez-moi. Pascal Bussière, notre nouvelle vedette de la télévision, en mode comique. Dans la nouvelle comédie Complexe G, elle incarne une directrice des ressources humaines pour le moins délurée, un rôle à mille lieues de sa vraie nature, mais qu'elle se délecte à jouer. Pour nous, Pascal est revenue sur ses débuts et s'est confiée sur la façon dont elle perçoit le fait de vieillir et sur le plaisir de sortir de sa zone de confort. Un article de Clémence Rissler dans le Moi et compagnie. Excusez-moi. Ce qui nous frappe en observant Pascal Bussière prendre la pose devant notre photographe, c'est la simplicité et le naturel avec lesquels elle s'exécute, sans parler de son exceptionnelle beauté. C'est qu'après plus de 30 ans de carrière, les caméras et les projecteurs braqués sur elle n'ont plus rien d'intimidant. J'ai joué dans mon premier film Sonatine à l'âge de 13 ans, dit l'actrice. Depuis, je n'ai jamais cessé de tourner. Comme j'ai participé à plus de 40 films et à 20 séries télé, c'est presque la moitié de ma vie qui s'est déroulée sur un plateau de tournage. J'y ai appris mon métier, j'y ai développé mes forces et ma personnalité, et j'y ai rencontré beaucoup de gens, dont certains sont devenus de très bons amis. Éternelle jeunesse. Même si elle connaît très bien les rouages de son métier, Pascale ne tient rien pour acquis et son travail lui procure toujours un très grand plaisir. J'ai l'impression qu'en exerçant ce métier, on garde un petit côté juvénile, explique-t-elle. On est un peu comme des enfants quand on joue, car on se retrouve dans des univers inventés et il y a une petite part de moi qui a toujours l'impression d'être une débutante. Pour aborder un nouveau rôle, on doit avoir la capacité de faire le vide pour partir sur de nouvelles bases. Il y a quelque chose d'intemporel à être comédienne, même si, évidemment, on vieillit. Et de quel œil voit-elle le fait de prendre de l'âge dans un monde reconnu pour faire de moins en moins de place aux acteurs qui ont passé le cap de la quarantaine? Autrefois, j'appréhendais beaucoup le passage à vide que déploraient plusieurs comédiennes, avoue-t-elle. Mais maintenant que j'y suis, je me rends compte que j'ai encore ma place. Je trouve même qu'il y a davantage de rôles féminins intéressants pour les femmes de mon âge que pour les hommes. Même sur la scène internationale, je remarque qu'on glorifie beaucoup moins la vingtaine qu'auparavant. Je regarde des actrices comme Charlotte Gainsbourg, Nicole Kidman ou Naomi Watts. Ces femmes continuent à beaucoup travailler et c'est rassurant. Au fil du temps, curieuse et passionnée, Pascale Bussière n'a aucun mal à imaginer qu'elle pourrait passer à autre chose s'il le fallait. Je pourrais retourner à l'école pour étudier les beaux-arts, devenir fleuriste, étudier en bio. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais les périodes d'accalmie n'ont jamais été suffisamment longues pour lui permettre de vraiment penser à une seconde carrière. Les offres ont toujours été beaucoup trop alléchantes. D'ailleurs, elle n'exprime aucun regret lorsqu'elle parle de ses rôles « virages », comme elle les appelle, qui ont, chacun à leur manière, influencé la trajectoire de sa carrière. Sans Sonatine de Micheline Langteau, j'aurais fait autre chose dans la vie, affirme l'actrice. C'est dans la série Blanche en 1994 que j'ai eu mon premier rôle à la télé. Ça m'a donné une nouvelle notoriété. Je suis vraiment passée à un autre mode à partir de ce moment-là. Dans la foulée, j'ai joué dans Eldorado, un film qui a marqué les années 90. Ensuite, au début des années 2000, je suis allée à Cannes pour le film français La Répétition avec Emmanuel Béard. Ma carrière aurait alors pu prendre une envolée internationale, mais ce n'était pas un bon moment pour moi pour aller vivre à Paris, car je venais d'avoir un bébé et j'en ai eu un autre peu de temps après. Jouer la comédie, si jusque-là on l'avait surtout vu incarner des femmes sérieuses ou mystérieuses, voire ténébreuses, son interprétation d'Alice Robbie dans « Ma vie en cinémascope » en 2003 nous l'a révélée sous un nouveau jour. Il y a quelque chose en moi qui s'est déployé dans ce film de Denise Filiatro. Je ne m'étais jamais glissée dans la peau d'un personnage aussi extraverti. Il m'a fallu explorer une nouvelle facette de moi-même. C'est peut-être ce qui m'a permis de m'ouvrir à la comédie, un genre qui ne m'était pas du tout familier. En effet, Pascale n'avait jamais joué dans une comédie avant de tourner « Le cœur a ses raisons et les bobos ». Elle admet d'ailleurs que de jouer Sarah, la nymphomane de Complexe G, l'a fait totalement sortir de sa zone de confort. Elle se plaît beaucoup à le faire, d'autant plus qu'une belle complicité s'est installée entre les 6 comédiennes de la série. Aussitôt que j'ai eu cette proposition, j'ai regardé quelques épisodes de la série française « Working Girls », de laquelle Complexe G s'inspire, et j'ai été séduite par son côté caricatural. Ça parle ouvertement de sexe et ça déboulonne plusieurs tabous. Dire tout haut ce qu'on ose habituellement, pas dire du tout, faire sortir la salope en nous, ça fait tellement de bien, conclut l'actrice, avec un grand sourire et une lueur d'expièglerie dans les yeux.
Je sais que tôt ou tard, tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaierai d'être gay pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides, je t'aime. Dans tes yeux je lirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. Bien vite je m'en irai sans même te dire que si je t'aime, ce n'est pas de ma faute. Cela fait si longtemps que je suis là, le cœur battant, à ne plus penser qu'à toi. À guetter ton regard, en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi. Mais si à cet instant, très doucement, je sens ta main se poser sur la mienne, de joie je crois, je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Mais si à cet instant, très doucement, je sens ta main se poser sur la mienne, de joie je crois, je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Alors, mais c'est un autre talent de Pascal Bussière qui chantait là avec Charlevoix, ces mots stupides. Bon, moi, je me suis retenue jusqu'à maintenant, mais ça y est, je vous parle de Noël. Alors, décorer en pensant à la planète, c'est dans le mois et compagnie du mois de décembre, et c'est un texte par Suzanne Duquette. Le temps des fêtes est la période de toutes les extravagances et souvent de tous les excès. À cette occasion, nous, en Amérique du Nord, décorons la maison jusqu'au moindre recoin, en plus d'accumuler les cadeaux et de multiplier les somptueux repas. Et si, pour une fois, tous ensemble, nous pensions un peu plus à la planète en posant quelques petits gestes. Alors d'abord, il y a le sapin, naturel ou artificiel.
Question.
La réponse semble évidente. Pourtant, certaines nuances s'imposent. Plusieurs familles québécoises ont décidé d'opter pour un sapin artificiel afin de s'opposer à la coupe à blanc des forêts. Toutefois, il faut savoir qu'on cultive des sapins spécialement pour le temps des fêtes, donc il n'y a plus de danger pour l'environnement. Les avantages et les inconvénients. Alors, le sapin naturel, le groupe Ellipsos a prouvé scientifiquement qu'un sapin naturel génère moins de gaz à effet de serre qu'un sapin artificiel, même si on a recours à des produits toxiques pour le cultiver. Enfin, on peut également recycler l'arbre naturel. Ses désavantages, on le renouvelle tous les ans, il perd ses aiguilles et il faut l'arroser. Il présente aussi des risques d'incendie. Le sapin artificiel. Ce sapin fait de plastique arrive souvent d'Asie. On doit le conserver 20 ans pour que son impact sur l'environnement soit similaire à celui d'un arbre naturel. Petit geste, conserver son sapin artificiel plus de 6 ans, la moyenne provinciale, avant de changer pour le sapin naturel. L'arbre au mur et plante en pot. Si le sapin occupe une place importante dans l'imagerie de Noël, il peut être remplacé par des versions stylisées plus écologiques, comme des couronnes formées de branches et de sapinages à accrocher au mur. D'autres nouvelles avenues sont proposées, comme les plantes en pot, les petits conifères, les cèdres et même les bouquets de romarin ou de lavande supporteront très bien d'être confinés dans un pot. Petit geste, décorer en se servant de pots de fines herbes qu'on alignera sur le comptoir de la cuisine ou sur la table dressée après les avoir ornés de rubans de couleur. Pensez énergie. Troquez ces vieilles ampoules contre des ampoules Dell ou des modèles qui fonctionnent à l'énergie solaire. On en trouve partout. On n'a plus d'excuses pour ne pas passer à la technologie verte. Petit geste, faire des économies d'énergie en utilisant une minuterie qu'on aura programmée pour qu'elle allume nos ampoules à l'extérieur à la tombée du jour et qu'elle les éteigne à 23 heures, ce qui réduit les heures d'éclairage. Décorer, oui, mais il est possible de décorer en recyclant les boules et les guirlandes de l'année précédente ou en fabriquant ses propres décorations avec du papier journal. Les magasins de bricolage et d'artisanat sont là pour nous inspirer. Par exemple, la compagnie Michaels nous propose de récupérer des boutons pour décorer une boule en styromousse. Une autre suggestion, cette fois de Rona, recouvrir une boule de Noël un peu défraîchie d'échantillons de peinture découpés en petits cercles et maintenus par de la colle ou d'entrelacs de cordes en fibre de coco. Petit geste, créer soi-même ses décorations avec de la pâte à sel, de la farine, de sel fin et façonner l'objet désiré et faire cuire la pâte au moins une heure au four.
C'est bon ça.
Faire des achats sensés. On peut renouveler son décor en se souciant de la portée sociale de ses achats. Plusieurs entreprises font des efforts en ce sens. Par exemple, Target s'est associé à la compagnie Tom's pour créer des bougies et d'autres accessoires à moins de 50 $. Pour chaque objet vendu, elle donne une couverture à la Croix-Rouge canadienne ou de quoi faire des repas pour une semaine à une banque alimentaire. West Elm, quant à elle, propose des sculptures murales d'animaux en papier mâché faites avec des matières recyclées et créées par des artistes haïtiens, tandis que Pottery Barn et Rona offrent cette année des boules et des couronnes créées avec du bois flotté. Certains organismes locaux à but non lucratif vendent des produits spécialement conçus pour la période des fêtes. C'est l'occasion pour le consommateur de contribuer au bien-être de la collectivité et d'acheter des cartes, des chocolats ou des cannes colorées qui pourront être suspendues. Choisir des décorations qu'on peut modifier chaque année, comme des boules avec une surface effet tableau, sur lequel on écrit des messages. Le feutre est une matière recyclable, tout comme le bois et la laine. Leur look à l'ancienne est tout à fait adapté aux circonstances. Petit geste, s'informer de la provenance des produits qu'on veut se procurer. Visiter un marché de Noël pour acheter un produit local ou pour aider à la collecte de fonds de l'organisme de son choix. S'emballer. Pas facile de garder le même papier d'emballage chaque année. Par contre, on peut opter pour le papier fait de matières recyclées, pour les sacs en feutre qui deviennent aussi des cadeaux et pour les emballages en tissu à la japonaise. Petit geste. Récupérer les rubans qui ornent les paquets pour les utiliser l'année suivante.
Bien, une nouvelle adresse pour relaxer, c'est un antidote idéal au stress des fêtes. Une sortie au nouveau spa nordique Kinépi à Trois-Rivières, pas très loin d'ici. Ce qu'on y aime, les bâtiments se trouvent sur deux niveaux avec les bassins dans une sorte d'enclave en contrebas. Ainsi, on peut profiter du circuit thermal ou relaxer dans les bains tourbillons chauds tout en demeurant bien à l'abri du vent. Après, des trottoirs chauffants nous mènent vers des salles de repos où l'on peut regarder tomber les flocons à travers les grandes baies vitrées ou les flammes qui crépitent dans les foyers de bois. Très réconfortant aussi, le spa est décoré d'œuvres d'art originales et son resto propose des plats élaborés avec des produits régionaux. En plus, avec les copines, les jeudis soirs, on y fait jouer des airs de jazz et les baigneurs peuvent aussi conserver converser à leur guise. Parfois, pour celles pour qui jaser est aussi une façon de relaxer, le reste de la semaine, calme et silence sont à l'honneur. Combien? Ah, une journée complète, 44 $ toute la semaine et 48 $ pour le week-end, soirée après 18 heures, 34 $ la semaine et 38 les week-ends. Pour l'information, vous téléphonez au 1-888-9-KINIPI ou sinon le site internet kinipi.ca. Et voilà!
On y va quand?
Bientôt, bientôt, tout de suite!
Recevoir et rester zen. Voici cinq règles d'or de l'organisation qu'on tend souvent à oublier. On les imprime et on les colle sur le frigo s'il le faut, mais cette année, pas question de laisser le stress gâcher notre plaisir. On parle beaucoup de stress de Noël. Hein?
Ben, c'est la période en ce moment. On s'énerve à courir les cadeaux.
C'est plutôt de la joie de Noël, pas de stress. Alors, ne jamais sous-estimer le pouvoir des listes. Dresser des listes achats, menus, etc., nous aidera à arriver au jour J plus détendu. On opte pour la façon classique sur papier ou pour la techno sur tablette ou téléphone intelligent. Des applications à essayer, Remember the Milk pour iPhone et iPad et Any.do pour iPhone, iPad et Android. Misez sur la simplicité. On prévoit des mets faciles à préparer et surtout, on évite d'essayer le jour même une recette ultra sophistiquée qu'on n'a jamais cuisinée. En ce qui a trait aux activités, inutile de surcharger le programme. Des jeux de société de cartes mis à la disposition des invités animeront très bien la soirée. Déléguer. L'événement n'en sera que plus sympathique puisque chacun y aura mis son grain de sel. On doit toutefois accepter que tout ne soit pas fait à notre façon. Et c'est très bien ainsi. Revoir nos attentes. On fait une croix sur la perfection et on mise sur le plaisir. Le nôtre étant aussi important que celui de nos convives. Et enfin, respirer. Il y a beaucoup à faire et on sent le stress monter. On s'arrête et on respire un bon coup. On ajoute ce point à notre liste s'il le faut.
Voici. Pour danser sous la pluie, je dirais aujourd'hui, hein, danser sous la neige.
Oui, plutôt.
De petits conseils de notre nouveau coach, David Bernard, qui est un conférencier et coach certifié en PNL. Eh bien, ce cher David nous dit, vous rappelez-vous la dernière fois où vous avez vécu de grands bouleversements dans votre vie? Comment avez-vous vécu ces moments? Si vous êtes comme la plupart des êtres humains, vous n'êtes pas friand de changement. Et c'est normal. Avant de penser à évoluer et de trouver un sens à sa vie, la priorité de l'humain est de se sentir en sécurité. Quelle est la chose la plus recommandée pour favoriser l'épanouissement d'un enfant? Et la routine. La routine se résume à créer de la sécurité et de la stabilité. Pour les adultes, c'est pareil. Nous avons un besoin viscéral, parfois conscient, souvent inconscient, de sécurité. C'est beaucoup plus difficile d'évoluer quand on est en mode survie. Il faut d'abord stabiliser son bateau avant de voguer à l'aventure. Paradoxalement, c'est quand on sort de notre zone de confort qu'on grandit le plus. Au final, soit tu t'enlises dans la sécurité ou tu freines ton évolution. Soit tu explores l'inconnu et tu t'imposes du stress au cours du processus.
Le choix est difficile, hein?
Ouais, mais attends. Alors, on prend des risques ou pas? Tout récemment, j'ai fait le saut. Je me suis acheté une maison avec mon amoureuse. On parle de notre cher David. Après avoir essayé de vivre à quatre dans un loft, nous sommes les fiers parents d'une fillette de 8 mois, Eva, et d'un gros pitbull nommé Lady. Nous avons constaté qu'on manquait d'espace pour la famille. Vu l'état du marché immobilier et la difficulté de vendre notre propriété, nous avons décidé de louer notre loft. Plus encore, nous avons choisi de le louer entièrement meublé, Avant même de réaliser ce qui se passait, nous nous sommes retrouvés face à un défi colossal. Nous n'avions que 4 semaines pour trouver une maison, la faire inspecter, en négocier le prix, y aménager et, cerise sur le sundae, la meubler de la cave au grenier. J'avais donc envie de partager avec vous 3 points qui sont matière à réflexion si vous êtes face au changement et que, tout comme moi, vous avez le vertige. 1. Pensez carotte et non bâton. Votre façon de vivre est le reflet direct et proportionnel de vos pensées. Plus vous vous concentrez sur les problèmes, plus les problèmes seront placés sur votre chemin. Les appréhensions quant au futur sont normales. Elles nous permettent de nous remettre en question et nous poussent à nous rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes. Les problèmes apparaissent lorsque ces appréhensions sont nourries d'incessantes interrogations et de remises en question qui accélèrent le processus de réflexion et nous éloignent de la paix intérieure. En bref, restez axés sur ce que vous voulez gagner, pas sur ce que vous avez peur de perdre. Passez moins de temps, 20%, à vous concentrer sur le problème et plus de temps, 80%, à réfléchir à une solution. Voyez le portrait dans son ensemble. Prenez un moment, respirez profondément, comme tu le disais d'ailleurs, Dominique, et pensez perspective. Plus vous serez en mesure de percevoir votre vie dans une perspective à long terme, plus la motivation de prendre des risques et de vous dépasser vous viendra naturellement. Développez votre foi en la vie, en vous, en Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez. Tout est une question de perception. Lorsque nous croyons que l'univers place sur notre chemin ce dont nous avons besoin pour évoluer, ça devient plus évident de foncer et de persévérer. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien, mais c'est surtout face à l'adversité qu'il est essentiel de la développer. Choisissez de croire en quelque chose. Votre boussole a besoin d'un bon nord. Au final, rappelez-vous ce que disait Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais bien d'apprendre à danser sous la pluie. C'est fou comme on évolue rapidement quand on a le courage d'aller là où on a peur d'aller. Alors, dansez, mes amis, dansez! Alors, aussi un petit conseil par Julie Champagne, qui est encore dans notre charmant magazine. Récupérer une journée que l'on voudrait avoir oubliée et ne pas avoir passé, mais 3 petits conseils faciles. On dédramatise. Une mauvaise journée est souvent une suite ininterrompue de petites complications. On se laissera moins submerger si on isole chaque souci plutôt que de les affronter en un seul bloc. Est-ce si grave? Peut-on vraiment y changer quelque chose? Si oui, quelles sont les solutions? On se change les idées. Au lieu de pester contre le passage de la lune en bélier, on sort faire une marche. On appelle une amie pour lui raconter nos aventures avec humour. On plonge dans un bon roman. On redresse la tête. Épaules voûtées. Mine basse, démarche lente et mal assurée. Notre accablement se voit en un seul regard. Et si on modifiait notre posture pour influencer notre état d'esprit? Allez, on redresse la tête, on se tient le dos droit et on regarde loin devant soi. Et surtout, on garde le sourire.
Gâteau aux fruits et cravate LED. C'est par Stéphane Dompierre dans le Elle Québec de décembre 2014. Il a une excellente suggestion de cadeau de Noël pour vous. N'en donnez aucun et vous éviterez bien des déceptions. Enfant,
j'ai sans doute aimé Noël. Je présume que oui. Ce qui me revient à l'esprit, c'est surtout la joie que j'éprouvais en ouvrant mes cadeaux, une joie éphémère qui s'éteignait dès que j'en découvrais le contenu. J'avais rêvé pendant des semaines qu'on m'offrait une fusée, un tank ou pire, une Lamborghini. Mais non, chaque année, je recevais de vulgaires jouets. Je n'ai pas oublié ce Goldorak en plastique dont le poing, quand on appuyait sur un bouton, se détachait pour s'élever mollement dans les airs avant d'atterrir à ses pieds. Ce n'était certainement pas lui qui allait me défendre contre d'éventuels envahisseurs extraterrestres. Dans le dessin animé, ça faisait crac, boum, po, bing, bang. Mais ce jouet dans mes mains ne faisait que quick et plop. La réalité était toujours moins excitante que ce que je m'étais imaginé. À cet âge, les cadeaux n'étaient rien de plus qu'une source de déception. Lorsque j'ai été assez vieux pour devoir en acheter à mon tour, ils sont aussi devenus une cause de stress intense. J'ai découvert les listes de suggestions remplies d'articles en rupture de stock, les centres commerciaux bondés et les clients hystériques qui n'hésitent pas à piétiner femmes et enfants pour agripper le dernier exemplaire de la poupée de l'heure. On dit que c'est l'intention qui compte, mais c'est complètement faux. Quand j'offre à quelqu'un une boîte de Ferrero Rocher prise en vitesse dans une pharmacie, je devine son jugement. Il en déduit aussitôt que je n'étais pas envoûtée par la magie du temps des fêtes en l'achetant. Et puis, c'est déchirant de voir un ami feindre la joie et y aller d'un « Oh !» sans conviction pendant qu'il déballe une cravate qu'on avait retrouvée au fond d'un placard en faisant du ménage. Et plus ça va, plus c'est difficile de trouver le bon cadeau. La belle-sœur est maintenant allergique au gluten et à 10 000 autres substances. La cousine s'est mise à bouder tout ce qui n'était pas équitable et bio. Plus moyen d'offrir un gâteau aux fruits, des pâtes alimentaires en forme de pénis ou un ensemble de salières et poivrières fabriquées en Chine sans risquer de créer un malaise. Les grands-parents peuvent raconter pendant des heures leurs plus beaux souvenirs de Noël d'antan. Ils parlent des réunions familiales bordéliques et festives, des buffets copieux, de la belle-sœur accordéoniste ou du cousin violoneux, et même de l'oncle alcoolique déguisé en Père Noël qui déboulait les escaliers et faisait peur aux enfants. Des dizaines de moments empreints d'émotion et de nostalgie. Étrangement, malgré sa mémoire infaillible, ma grand-mère a déjà oublié la couverture Snuggie à imprimé camouflage que je lui ai offerte l'année dernière. Ah. Noël sans cadeau serait une fête parfaitement réussie. Fini les déceptions et l'embarras, les bousculades dans les magasins, les cauchemars peuplés de banquiers qui nous courent après et les malaises cardiaques quand arrivent les relevés de cartes de crédit.
Ah, ouais.
Cette année, je vais tenter de lancer une mode en ne donnant rien à personne. Avec tous ces trucs moches que j'ai l'habitude d'offrir, nul doute que mes proches accueilleront ma nouvelle initiative comme le plus beau des cadeaux.
C'est vrai ce que tu penses?
Je sais pas, mais pour compléter cet article, voilà la liste des ennemis de Noël. C'est des ennemis de la magie de Noël. C'est par Claudine Saint-Germain et c'est dans le coup de pouce de décembre.
Eh ben, dis donc, toi.
Alors tout d'abord, le stress. C'est l'ennemi numéro un, celui qui transforme la fabrication du biscuit en course contre la montre, la décoration du sapin en dispute familiale, les traditions réconfortantes en corvée. Il n'est pas facile de le neutraliser, mais il faut quand même essayer du mieux qu'on peut. Les centres commerciaux, début décembre, passent toujours, mais à quelques jours du réveillon, quand ils sont bondés de magasineurs stressés jouant du coude pour attraper le dernier article sur la tablette, il règne une ambiance de panique et d'hystérie qui porte à réfléchir plus sur la folie consommatrice que sur la magie de Noël. La multiplication des parties. Combien de fois en un mois peut-on s'habiller chic, s'empiffrer et fêter jusqu'aux petites heures dans l'enthousiasme et la bonne humeur? Le chiffre dépend pour chacun. Mais chose certaine, il est difficile de se mettre en mode magie quand la seule chose qu'on souhaite vraiment, c'est se coucher de bonne heure. La surenchère de cadeaux. Parce que ça coûte cher, parce qu'il faut les magasiner, les choisir, les emballer, les transporter. Et parce que si on pense que notre destinataire sera 10 fois plus content si on lui offre 10 cadeaux au lieu d'un, eh bien on se trompe. Noël est la meilleure occasion pour mettre en pratique ce vieil adage, toujours d'actualité, c'est l'intention qui compte. Il y a les chicanes de famille aussi. Quand la moitié des frères et sœurs fait la gueule à l'autre, la magie des Noëls en famille s'envole pour toujours. On peut toujours se faire un réveillon plus intime ou décider que désormais on fêtera entre amis, mais c'est quand même à garder en tête avant d'asticoter encore une fois notre frère avec des récriminations qui datent de notre adolescence. L'omniprésence des Pères Noël et des lutins. Cette année, les lutins sont apparus dans les magasins au mois de septembre. Ah, comment être encore émerveillé quand ils sortent supposément de leur cachette le 1er décembre ? Idem pour le Père Noël. Quand on le voit dans chaque boutique et à la télé à toute heure, il perd franchement de son attrait. La musaque de Noël, passée à la moulinette, des mélodies qui bercent nos Noëls depuis toujours pour en faire un bruit de fond aussi insipide qu'irritant, ce n'est pas seulement sacrilège, c'est criminel. La pluie, il faut avoir un esprit de Noël à toute épreuve pour ne pas déprimer en se rendant au réveillon sous la pluie battante. La neige est une condition essentielle pour avoir un Noël minimalement magique. Le perfectionnisme, une maladie moderne qui gâche le plaisir de décorer un sapin, de cuisiner des desserts, d'emballer des cadeaux, de faire des photos de famille. Parce qu'à attendre la perfection, on finit par ne rien faire. Et enfin, la lassitude. Parfois, rien que l'idée de vivre un autre Noël nous épuise. On passerait plutôt cette journée en pyjama sous un doudou, un bon chocolat chaud à la main. Et pourquoi pas ? Qui sait si ce n'est pas là qu'on trouverait notre magie à nous ? Joyeux Noël !
Il y a le beau-frère qui a lui-même travaillé plus que tout le monde, épuisé. Et la belle-sœur qui a elle-même cuisiné plus que l'autre belle-sœur déjà renfrognée. Pour le réveillon, pour le réveillon, pour le réveillon, pour le réveillon. D'arriver à l'heure, et alors c'est à une heure bien spécifique. Nous servirons les amuse-gueules, et tant pis pour ceux qui en veulent, pis dans le trafic. Pour le réveillon, pour le réveillon. Une vraie carte postale aurait dit ma mère. C'est tout blanc pour le réveillon.
Voilà, voici Dominique. Hein? La magie de Noël est revenue avec notre belle chanson de Daniel Bélanger pour le réveillon.
Ah, enfin!
Et que j'aime ça parce que là, les fêtes avec notre neige d'aujourd'hui, ça, ça va être notre temps des fêtes. Et moi, je vous arrive avec des looks en fête. 9 idées simples pour rehausser d'un cran son look de party. Et voici, c'est un article de Sophie Saint-Laurent dans le magazine Châtelaine de décembre. Numéro 1, les lèvres écarlates. Plutôt du genre à porter un brillant à lèvres naturel au quotidien, pourquoi ne pas le troquer juste pour Noël contre un rouge riche et crémeux au ton vitaminé? Complètement dans le coup, le rouge vif et le fuchsia vibrant ont le pouvoir d'illuminer le visage en moins de 2. Des lèvres qui ont du punch sortissent mieux à une mise en beauté minimaliste. Lire. Oh, on a un beau regard smoky à voir, excusez-moi. Le numéro 2, l'accessoire qui se remarque. Après le collier rétro, voilà que le bracelet manchette, serti de gros cristaux colorés ou de perles, prend d'assaut les passerelles. On chipe l'idée du stylisme aperçu dans le défilé de Ralph Lauren et on le porte par-dessus la manche d'un tricot ou d'un chemisier. L'accent en T, repéré dans les filets de Jason Vu et de Prada, les chaussures à bride en T actualisent nos basics. Délicates et sexées, elles se portent avec à peu près tout, mais elles sont très modernes, mariées à un pantalon skinny coupé à la cheville. Se serrer la ceinture. Nous avons s'entourer la taille d'or. Voilà de bonnes idées pour réveiller un tailleur strict, une robe simple ou un cardigan. Les tons précieux et métallisés comme le cuivre, l'argent et l'or rose peuvent aussi faire l'affaire. Celles qui n'apprécient pas trop le bling-bling aimeront cette petite touche glam sans trop de fioritures. La touche de dentelle. Très en vogue en ce moment. L'allure boudoir à la cote depuis plusieurs saisons. La dentelle comme accent est une bonne façon d'explorer cette tendance très féminine pour les festivités. Pour éviter de tomber dans le panneau d'un look trop fifille, on ajoutera avec les contrastes de matière, la délicate dentelle sera plus décontracte si on lui associe un pull en tricot à mailles rustiques. Le sac de collection. Partez de bureau en vue. Pas question de sortir avec le gros cabas qu'on trimballe tous les jours au boulot. La pochette chic est un must pour passer du 9 à 5 à l'heure du cocktail. Les minaudières, aumônières et autres sacs embellis de perles, de cristaux ou de cloutage transforment une robe noire en un tailleur neutre en tenue de soirée.
Que des bonnes idées, hein?
On va sortir nos petits sacs. La manucure 24 carats. Eh oui, pour être dans le ton, jusqu'à la pointe des ongles, on s'amuse avec les nouvelles laques métallisées de la saison. On a une nette préférence pour le vernis doré. Et aussi le pelage relax. La fourrure, vraie, recyclée ou fausse, aucune importance, est complètement tendance depuis une décennie. On ne se lasse pas de son effet glamourisant. C'est pour cela qu'on l'appelle en renfort pour ajouter du piquant à un look plus décontracté. Disons, pour un brunch festif en famille, on s'inspire d'Olivia Palermo, une de nos muses de style, et on mise sur la veste velue sans manches pour raviver en un claquement de doigts un legging, un jeans banal ou un tricot tout simple. Et le rouge autrement. On ne s'en sort pas. Le rouge, ça fait Noël et on aime ça. Mais on a souvent le réflexe de jouer la carte de la prudence et de le porter avec du noir, du marine ou du gris. Pourquoi ne pas oser un mélange qui sort de l'ordinaire? Le rouge gagne en raffinement avec des tons neutres dits de terre, comme le beige, le doré, le chamois ou le kaki, et prend un air branché avec du bleu pâle ou du turquoise. Et aussi, nous avons le blanc d'hiver. Exit la vieille règle mode qui commandait d'éviter de porter du blanc après la fête du travail. À preuve, les griffes de luxe comme Chloé, Vanessa Bruno et Roberto Cavalli de Ports 1961, voyons où je suis rendue, osent même le proposer de pied en cap en plein hiver. Pour que l'ivoire, le coquille d'œuf et le blanc pur passent sous les flocons, on opte pour les matières et des textures adaptées à la saison. Lainage, cuir, fourrure, satin et velours. Bref, pas de lin immaculé quand le mercure chute sur la barre du zéro.
Eh bien, on a de quoi s'habiller pour Noël, hein? Là,
ah oui,
que des bonnes idées, que des bonnes idées.
Après casse-noisette, c'est comme au chalet, décor traditionnel. Le style chalet est au goût du jour. Pour le créer, on recherche le charme classique d'ornements qui évoquent nos Noëls d'antan. Alors, on fait comment ? Premièrement, on donne la vedette au sapin. On l'installe de manière qu'il devienne le centre d'intérêt de la pièce, quitte à réorganiser le mobilier ou à réorienter fauteuil et sofa. Ensuite, pour le décorer, on pige dans le répertoire des classiques. On évite cependant de cacher les branches de notre arbre en le surchargeant de guirlandes. Il ne doit pas être un fourre-tout. On fait un tri et on établit un thème. Ensuite, on joue la carte du rouge. Pour préserver un équilibre, on l'associe à quelques touches de blanc, de doré, de vert, ou on s'inspire des teintes présentes dans le décor. Et on choisit des papiers d'emballage assortis. Et enfin, pour donner une note actuelle à notre décor rustique, on revisite les indémodables bois vieillis, chandelles, lainages. De même, plutôt que de simplement accrocher les bas de Noël au manteau de la cheminée, on peut y suspendre un ruban sur lequel on expose les cartes de souhait, ou présenter un joli objet sous une cloche ou encore intégrer un accessoire plus moderne.
Eh bien, tu parles de ton chalet, oui, mais est-ce qu'on a déjà pensé comment sont évaluées les taxes foncières?
Hein? Ah, ça, c'est
toujours à y penser, parce que ça revient tout le temps, ça.
Oui, oui.
Alors voilà, l'évaluation foncière permet de dresser un inventaire complet des immeubles d'une municipalité dans un but de taxation. Eh oui. Comme la valeur foncière doit se rapprocher le plus possible de la valeur réelle de la propriété, l'évaluateur procède à des mesures, fait un croquis du bâtiment, spécifie les matériaux utilisés à l'intérieur et à l'extérieur, prend des photographies et note les caractéristiques de l'emplacement. Soit les structures secondaires, comme le garage et la piscine, le sous-sol, est-il aménagé ou non, le système de chauffage, les finis intérieurs, plafonds, murs, planchers, le nombre de salles de bain, les particularités du secteur. Il importe donc de déclarer tous les travaux qui pourraient augmenter la valeur de votre propriété, sous peine d'encourir une amende allant de 100 à 50 000 $. On veut savoir quelle sera notre facture de taxe en 2015? On consulte les outils et calculettes mis à notre disposition sur le site de notre municipalité. Vous voulez en savoir un petit peu plus? Le site est gouv.qc.ca.
Un extrait qu'on aime, Quand vous prenez la parole en privé ou en public, ayez un sourire dans les yeux, sur les lèvres et surtout dans la voix, et que vous savourez le succès et le plaisir de communiquer. Pour y arriver, en toute simplicité, imaginez que vous parlez à votre enfant que vous aimez, à votre meilleur ami ou à votre femme adorée. Vous verrez, vous aurez tout de suite un beau sourire intérieur qui vous réchauffera. On essaye de mettre ce principe en œuvre. J'espère qu'on y arrive. Alors, notre magazine est déjà fini. Merci pour cette heure passée avec nous. Merci à Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et ses magnifiques choix musicaux. Pas trop de Noël encore, c'était parfait. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser un message au 1-800-361-0635, poste 220 et sur notre site de canalm.org. Alors, Janine, à la semaine prochaine.
Oui,
On parlera encore de Noël. C'est pas fini.
Je vais aller chercher mes cadeaux, moi.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Dominique.